Europe 1. Europe 1.
Ondelat raconte.
Bonjour à tous. Une grande affaire criminelle aujourd'hui, l'histoire d'une empoisonneuse, Rodica Negroyou, qui d'ailleurs tout à l'heure sera mon invitée puisqu'elle est sortie de prison. Et je la salue d'ailleurs au passage. Bonjour Madame Negroyou.
Oui, bonjour monsieur.
Et à tout à l'heure. Cette histoire se déroule dans la même région que l'affaire Simone Weber. Quelques années après, et vous serez frappé par la ressemblance entre les deux affaires, notamment parce qu'il est question du même poison. Et que le moteur de Rodica, eh bien, c'est le même moteur que Simone, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Voici donc cette histoire unique, l'affaire Rodica Negroyou, que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. Le 14 décembre 1990, à Vendeuvre-les-Nancy, Raymond Jacquetel, un brave retraité de l'armée, 82 ans, entreprend de dégager la neige dans l'allée de son jardin. Et puis à un moment, il ne se sent pas bien. Il a du mal à respirer. Alors il appelle les pompiers.
Europe 1, Ondelat raconte.
Allô ? Allô ? J'ai la poitrine qui me serre. Ça me fait une de ces douleurs.
Nous allons arriver, monsieur. Ne bougez pas. Vous voulez rester en ligne ? Est-ce que vous avez des antécédents cardiaques ?
Bon, j'ai fait un malaise en octobre. Ça m'a fait à peu près pareil. J'ai très mal, hein. J'ai du mal à respirer.
Raymond Jacquetel est emmené par les pompiers à l'hôpital de Nancy, où il meurt à 20h30. Le pauvre Raymond était veuf et sans enfant. Et c'est Claude, un jeune de l'assistance publique qu'il avait pris sous son aile un temps, qui se charge d'organiser les obsèques. Et pourtant, ces dernières années, Claude n'avait pas trop de contact avec Raymond. Il était devenu distant, Raymond. Pourquoi ? Il trouvait ça bizarre, en tout cas. Mais bon, c'est quand même lui qui l'accompagne jusqu'au bout, jusque dans la tombe. Et normalement, l'histoire s'arrête là. Un accident cardiaque à 82 ans, pas de famille. C'est un appel téléphonique au commissariat de Nancy qui change le cours de cette histoire.
Allô ? Je vous appelle au sujet de la mort de M. Jacquetel. J'ai des choses à vous signaler, des choses qui me paraissent suspectes. Déjà, j'ai entendu dire que M. Jacquetel, il avait transformé toutes ses économies, plus de 700 000 francs, en bons du trésor. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une femme qui s'occupe de sa maison, là, depuis sa mort. Elle est chez lui presque tous les jours. J'espère que vous allez faire quelque chose, hein. C'est vraiment louche, ce qui est arrivé à M. Jacquetel.
Cet appel, évidemment, ouvre l'appétit des policiers. Au même moment, Claude, le gamin de l'assistance à qui Raymond avait toujours dit « c'est toi qui hérites de tout », va voir le notaire.
Je suis désolé, monsieur. Je puis vous dire que M. Jacquetel n'avait aucune disposition vous concernant.
Mais à qui va revenir la maison, alors ?
Vous n'êtes pas au courant. Monsieur Jacquetel avait contracté un viager pour sa maison. C'est donc au bénéficiaire de ce viager que revient la maison. Mais je vous le répète, hein, vous n'héritez de rien.
Claude est abasourdi. Et qui est le bénéficiaire de ce viager ? Qui ? Eh bien, la dame qui vit chez lui depuis sa mort. Elle a absolument le droit d'habiter là, puisque c'est chez elle. Les policiers se mettent aussi sur la piste des bons du trésor. Selon l'appel anonyme, Raymond Jacquetel a converti toutes ses économies, 700 000 francs, 100 000 euros, en bons du trésor. Le bon du trésor, c'est de l'argent qu'on prête à l'État et éventuellement c'est anonyme. Celui qui les a en main en est le propriétaire. Alors, où sont-ils, ces bons du trésor ? Et c'est là qu'ils apprennent que le jour des obsèques de Raymond, le jour même, il s'est passé un truc étrange à la poste de Nancy. un type d'une cinquantaine d'années s'est présenté avec 3 bons du Trésor pour se faire rembourser. Le guichetier lui a demandé une pièce d'identité, c'est anonyme certes, mais le fisc veille au grain. Et le type a dit
« Ah bon? Faut des papiers? Ah ben, je vais voir. Faut que je réfléchisse. »
Et il est reparti. Louche. Mais pour les policiers, mis au parfum de cette histoire, c'est absolument clair. Derrière cet homme, c'est elle qui se cache. Dans la maison, elle est tombée sur les bons du Trésor. Elle a demandé à un ami de tenter de les échanger. Elle pensait peut-être qu'on allait lui donner l'argent comme ça, sans rien demander. Alors elle, il est peut-être temps que je vous la présente, non? Sacrée cocotte, je vous préviens. Rodica Negroiu, 51 ans. Roumaine naturalisée française depuis 2 ans. Et veuve. Aide-soignante à l'hôpital psychiatrique de Nancy. C'est elle qui a acquis cette maison en viager. Mais c'est un drôle de viager, hein. Un contrat comme on n'en voit jamais. Comme toujours, elle devait payer une rente jusqu'à la mort de Raymond, 2000 francs par mois. Ça, c'est le principe du viager. Mais en plus, elle devait s'occuper de lui jusqu'à la fin de ses jours. Et après, elle avait la maison. Et quand ont-ils signé cet étrange contrat de vente en viager? Eh bien, il y a 2 mois. Ah ah! Elle a fait une bonne affaire. 2 mensualités à 2000 francs et hop, la maison dans la poche. Si en plus elle a empoché les bons du Trésor, c'est une très bonne affaire. Les policiers vont voir les voisins.
Bonjour madame, police nationale. Nous menons une enquête sur la mort de votre voisin, monsieur Jacquetel. Madame Negroiu, elle s'en occupait vraiment?
Si elle s'en occupait? Oh, pour jouer qu'elle s'en occupait, depuis 2 ans. Entre nous, c'est elle qui avait pris le pouvoir, hein?
Mais une voisine raconte une drôle d'histoire.
Monsieur Jacquetel, vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Je sais pas ce qu'elle m'a fait, je sais pas ce qu'elle me donne, mais je me sens crevé.
D'autres voisins racontent qu'elle lui faisait peur, qu'elle était autoritaire, qu'elle ne parlait à personne, bref, qu'elle était antipathique. Et ça, ça colle avec ce que dit Claude, le quasi-fils adoptif de Raymond. Il dit que quand il l'appelait au téléphone, il avait l'impression qu'il était sous contrôle. Il lui disait « je vais venir te voir » et l'autre inventait toutes sortes de prétextes. Un jour, il est venu le voir quand même. Raymond lui avait dit qu'il était absent. Il était là, dans son jardin. Il avait menti. Sur le moment, ça l'avait blessé, mais maintenant, il comprend. On demande aussi à Claude si par hasard, ça n'est pas lui qui a les bons du Trésor. Ben non, il ne les a pas. Mais Raymond lui avait dit où il les cachait. Et là, vous vous dites, ben pourquoi est-ce qu'il ne l'arrête pas tout de suite, cette Rodica Negroiu? C'est trop tôt. Pour l'instant, les policiers manquent de preuves. Il y a plein de choses à vérifier avant de lui passer les bracelets. Par exemple, qui a cherché à encaisser ses bons du Trésor à la poste le jour des obsèques? Un homme de l'entourage de Rodica? Son compagnon, par exemple, Roger, il s'appelle. On le présente au postier, celui qui lui a demandé sa carte d'identité. Il est formel, c'est lui. Mais l'autre nie vigoureusement. N'importe quoi. Et puis, le procureur ordonne l'exhumation du corps de Raymond Jacquetel. Et dans la foulée, une autopsie. Le corps est donc sorti du caveau 10 jours après son enterrement. Et à l'Institut de médecine légale de Strasbourg, on analyse ses viscères, le contenu de son estomac et de ses intestins. Et là, oh surprise, on trouve de la digoxine et du phénobarbital. La digoxine, c'est la même chose que la digitaline, et c'est ce que Simone Weber, à peu près à la même époque, a fait gober à son compagnon pour l'envoyer à Patres. C'est un médicament très sensible, qu'il faut doser très finement parce qu'on n'est jamais très loin de la dose mortelle. Quant au phénobarbital, c'est un médicament de la même gamme que le Gardénal, c'est un anti-épileptique. Alors est-ce qu'un médecin lui a prescrit ces deux médicaments au brave Raymond? Eh ben non. Aucune trace dans son dossier médical. Bien. Et elle, Rodica Negroyou, est-ce qu'elle s'est fait prescrire de la digoxine et du phénobarbital? Ah, dans une pharmacie du boulevard Lobo à Nancy, le 29 août, 6 mois avant la mort de Raymond? Eh bien voilà, elle l'a empoisonné pour récupérer son viager en express et ses économies. Une empoisonneuse. Comme Simone. Mais les policiers ne l'arrêtent pas. C'est encore trop tôt. Ils l'ont placée sur écoute. Elle doit se douter, bien sûr, que la police s'intéresse à elle. Je vous rappelle que son compagnon Roger a été interrogé au sujet des bons du trésor. Elle a dû voir les voitures de flics devant chez ses voisins et elle doit être au courant qu'on a exhumé le corps. Les policiers se rencardent sur son compte. Elle a un fils, cette Rodica. Un fils qu'elle a eu avant, en Roumanie, avec lequel elle a émigré en France il y a 6 ans. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, elle est veuve. Elle a été mariée à un certain Gérard et lui. Oh, ça alors? Il n'a pas duré bien longtemps, ce mariage. Le pauvre homme est mort 2 ans après la noce. Elle n'a pas de chance, cette Rodica. Non, elle l'aurait pas zigouillé lui aussi. Et d'ailleurs, comment l'a-t-elle rencontré, ce premier mari? Elle arrivait de Roumanie, elle venait d'immigrer en France et elle s'est mariée tout de suite. Gérard, lui, avait 16 ans de plus qu'elle. Il est mort 2 ans après. Les policiers vont voir les 2 sœurs du défunt mari. Oh, elle ne l'aimait pas, hein, Rodica. Elle lui taille un sacré costard.
C'est Rodica, avec son accent roumain et ses cheveux blonds décolorés, dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était une aguicheuse. Elle en avait après l'argent de mon frère Gérard, et puis c'est tout. Votre frère était riche, madame? Oh, pour sûr. Il a travaillé toute sa vie comme ouvrier des hauts fourneaux. Il avait une belle retraite et puis une jolie maison à Custine. Certes, mais c'était une retraite d'ouvrier tout de même. C'était pas Crésus, votre frère. Cette fille, elle en avait après le fric, je vous dis. Elle a saigné mon frère tout ce qu'elle pouvait.
Bon, il y a du racisme un peu là-dedans, c'est sûr, mais les 2 sœurs en ont encore sous le pied. Trop contente de lui régler son compte à cette belle sœur. Elle raconte par exemple que Gérard et Rodica faisaient chambre à part. Mieux que ça, au début, ils ont même fait appartement à part. Elle n'habitait pas avec son mari dans sa maison de Custine. Elle disait que c'était trop loin de son travail. Elle habitait à Nancy, pas loin de l'hôpital où elle était aide-soignante. Et d'ailleurs, d'après ce que disent les sœurs, ça lui a joué un mauvais tour. Quand elle a demandé la nationalité française, on la lui a refusée 2 fois, figurez-vous. Parce qu'elle ne vivait pas avec son mari. Pour être naturalisée française, il faut avoir vécu 2 ans minimum ensemble. Et donc à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, elle est venue vivre chez Gérard, et encore, chacun dans sa chambre. Donc ça n'était pas un mariage d'amour. C'était une sorte de mariage blanc. Et d'ailleurs, d'après ce que disent les sœurs, il paraît que le maire, le jour de la noce, a flairé l'embrouille. Il aurait carrément posé la question.
Dites donc, il ne s'agit pas d'un mariage blanc?
Signe que ça se voyait bien qu'ils ne s'aimaient pas, ces deux-là. Les 2 sœurs racontent aussi l'histoire d'un manteau de vison.
Après le mariage, elle a voulu un manteau de vison. Eh ben, elle l'a eu. Elle l'a mis sur la paille. Gérard n'avait plus de quoi faire ses courses.
Elles disent que leur frère a payé ce manteau 14 500 francs. 2000 euros, trois fois le montant de sa retraite. Qu'à un moment donné, comme il avait des problèmes d'argent, elles lui ont conseillé de le revendre. Le fourreur était d'accord pour le reprendre, mais Rodica ne l'avait plus. Elle l'avait vendu. Ça lui a mis un coup à Gérard, cette histoire de vison. Elles disent que ça lui a ouvert les yeux, qu'il a commencé à comprendre qu'il était en train de se faire plumer. Alors, il a demandé le divorce et surtout, il a annulé la donation au dernier vivant qu'il avait signée en faveur de Rodica. Quand Rodica a appris ça, elle était furax et elle avait tellement d'emprise sur lui qu'elle est arrivée à lui faire faire marche arrière. Il n'a pas demandé le divorce. Et il a signé une nouvelle donation au dernier vivant en faveur de Rodica. Et de quoi est-il mort, au fait, ce Gérard et lui, le premier mari? Il est mort à domicile. Un jour, selon sa femme, il avait trop picolé, il a été emporté par l'alcool. Et elle a réussi à faire gober ça à un médecin qui a signé le certificat de décès. Incroyable! Les deux sœurs ont eu beau dire
« Mais non, ils buvaient pas notre Gérard !»
Personne ne les a écoutés. Les policiers vont voir ce médecin un peu léger. Il reconnaît qu'il a été intrigué à l'époque par cette veuve calme qui n'avait pas l'air très abattue. Mais il a signé. Rodica fait enterrer son mari dès le lendemain. Et elle hérite de tout. Ses économies, sa maison, sans compter qu'elle touche toujours sa pension de réversion. Sacrée cocotte. Bon, eh bien si on exhumait le corps de ce premier mari... 4 ans après sa mort, on le sort de son caveau, lui aussi. Bien sûr, en 4 ans, le corps s'est délité et on ne peut plus analyser le contenu de son estomac. Mais vous devez savoir que les cheveux, les poils et le foie conservent la mémoire des poisons que le mort a pu avaler. Et ce, pendant des années. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on trouve? De la digoxine et en grande quantité. Le même médicament que celui qu'on a fait avaler à Raymond Jacquetel. Un médicament pour le cœur qui doit être dosé très finement et qui est mortel à haute dose. On vérifie bien sûr si quelqu'un en a prescrit à Gérard. Mais vous imaginez la réponse? Non, personne. Gérard n'était pas cardiaque. Elle l'a empoisonné lui aussi, son premier mari. Alors maintenant, oui. On va la chercher et on la place en garde à vue.
Madame Negroyou, nous allons être clairs avec vous. Nous vous soupçonnons du meurtre de 2 hommes, par empoisonnement. Et l'un d'entre eux est votre mari, Gérard et lui.
Gérard? Comment? Mais Gérard, c'était un alcoolique. C'est ça qui l'a tué, et pas autre chose.
La dame est volcanique.
Gardez votre calme, madame. Expliquez-moi plutôt comment il est mort. Ah ben c'est simple, comment il est mort? Je suis rentré un soir du travail, il était complètement saoul, il y avait des bouteilles partout sur la table, des vides et des pleines, et puis après je suis allé me coucher. Et puis le son de la télé c'était trop fort, je me suis relevé. Il dormait sur le canapé. Et puis je me suis réveillé dans la nuit, il était dans mon lit. Il dormait tout habillé. Et c'est quand j'ai voulu lui enlever ses vêtements que j'ai vu qu'il était froid. Ses mains étaient froides, son nez était froid. Il était mort, voilà.
Et là, les policiers lui collent sur la table tout ce qu'ils ont. La digoxine dans les 2 cadavres. Et les bons du trésor que son Roger a essayé de refourguer. Et là, elle est bien embarrassée. Mais bon, elle nie les évidences. Et comme elle est coincée, eh bien elle s'énerve, elle crie, elle hurle, un volcan en éruption. Mais à la fin, elle est inculpée, comme on disait encore à l'époque, d'homicide volontaire au pluriel. Et elle est écrouée à la maison d'arrêt Charles III de Nancy. Mais avant ça, on l'emmène chez elle pour une perquisition. Ah, c'est qu'elle a bon goût. La dame. Des lampes galées en pâte de verre, de l'école de Nancy, s'il vous plaît, et du mobilier Louis XIV, d'époque, pas des copies. Ça vaut bonbon, tout ça. Comment est-ce qu'une aide-soignante a pu s'offrir ces objets si précieux ?
Ah ben ça vient de chez moi, en Roumanie. Je les ai apportés quand j'ai émigré, il y a 7 ans. Tout est à moi.
Autant vous dire que cette histoire, 5 ans après l'arrestation dans la même région de Simone Weber, qui a employé le même médicament, la digoxine, pour se débarrasser de son mari, cette affaire Rodica Negroyou fait les joies de la presse. La nouvelle empoisonneuse de Nancy. On en parle même dans les journaux roumains et on en parle dans une revue destinée aux Roumains d'Israël. Et là-bas, à Tel Aviv, en lisant le journal, un certain Esther Goldstein manque de s'étrangler. Et il écrit tout de suite au juge de Nancy. Bonjour, je suis le frère d'Hermann Goldstein, le premier mari de Rodica Negroyou. Je vis maintenant à Tel Aviv et je me permets de vous écrire pour vous informer que mon frère Hermann est mort prématurément d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans alors qu'il était marié avec Rodica. J'ai toujours eu des doutes sur les circonstances de sa mort. Je vous prie de bien vouloir diligenter une enquête maintenant que vous tenez Rodica Negroyou. Merci de trouver ci-joint une copie de ma plainte déposée devant les tribunaux d'Israël. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez me convoquer afin que je vous fasse part de plus de détails. Signé Esther Goldstein. Les faits remontent à 1982, quand Rodica vivait encore en Roumanie. Elle serait donc 2 fois veuve, et ça ferait donc 3 cadavres dans le dossier. Sacrée cocotte! Mais la cocotte a du ressort, vous allez voir. Son avocat réclame des contre-expertises. Il veut qu'on refasse les analyses faites sur les corps de Raymond Jacquetel et de Gérard et lui. C'est futé. Parce que l'avocat sait que les expertises, ça va, ça vient. Résultat. L'Institut médico-légal de Paris détecte bien du phénobarbital dans le corps du vieux Raymond Jacquetel. Mais pas de digoxine. Et dans celui de Gérard et lui, rien. Il ne détecte ni l'un ni l'autre. Pour l'enquête, c'est la tuile. C'était la preuve. Et maintenant, le dossier est un peu branlant. Du coup, que fait l'avocat de Rodica Negroyou ? Il dépose une demande de mise en liberté. Et il l'obtient. Rodica sort de prison contre une caution de 500 000 francs. Tout en restant inculpé et sous contrôle judiciaire, interdite de quitter le territoire français. Mais tout de même, quelle victoire ! Le juge, agacé, demande alors une 3e expertise toxicologique à un professeur de Lille. Et là, marche arrière. Il y a bien de la digoxine et du phénobarbital dans le corps de Raymond Jacquetel. Et de la digoxine dans celui de Gérard et lui. C'est à s'arracher les cheveux. Le juge demande à l'expert « Pourquoi ? Pourquoi ces résultats contradictoires ? La chimie n'est-elle pas une science exacte ?» Réponse « Ça dépend de la méthode utilisée et de la quantité de prélèvements examinés. » Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Rodica ? On la renvoie en prison ? Le juge choisit de la laisser dehors. Il va le regretter, car libre, Rodica Negroyou se lance dans une guerre juridique. Elle se met à porter plainte contre tout le monde. Une plainte contre X, une autre contre Esther Goldstein, le frère de son premier mari, d'autres contre les voisins de Raymond Jacquetel, ou encore une autre contre Claude, le presque-fils de Raymond. Et tant qu'à faire, contre la famille et lui. Et cerise sur le gâteau, contre le directeur de la maison d'arrêt de Nancy, contre le juge qui instruit son affaire, et contre les policiers. Tournée générale. Mais ça finit par se retourner contre elle. Elle est condamnée deux fois pour dénonciation calomnieuse. Et du coup, eh bien, elle retourne en prison en attendant son procès devant les assises. Le procès s'ouvre le 21 juin 1999. Le banc de presse est plein à craquer, forcément. Rodica est la nouvelle Simone Weber. Regardez-la dans le box. Elle est pas mal, hein. C'est une belle femme, bien droite là dans son chemisier blanc. Elle est séduisante. Elle sera défendue par son avocat depuis le début, Maître Michel, et par Maître Baird. Mais la patronne de sa défense, c'est elle-même, bien sûr. Elle prend des notes, elle fait passer des petits papiers, bien sûr, elle se fâche. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle monte sur ses grands chevaux. Elle insulte les parties civiles. C'est un volcan, comme toujours. Ce procès est marqué par une séquence absolument culte. Claude, le protégé de Raymond Jacquetel, vient à la barre pour témoigner. Et là, il fait une confession, pas très reluisante. Vous vous souvenez des bons du trésor qu'on n'a jamais retrouvés?
Eh bien, monsieur le juge, c'est moi qui les ai, ces bons du trésor. Je savais où ils étaient cachés, je les ai récupérés.
Dans son box, Rodica fait un bond et le volcan se réveille.
Tu n'es qu'un sale voleur ! Rends-moi mes bons ! Rends-moi mes bons !
La salle explose de rire, parce qu'en aucun cas, ce sont ses bons. Elle n'a fait qu'acheter la maison en viager, les bons du trésor n'étaient pas dans le viager. Un peu plus tard, la présidente fait amener dans la salle d'audience tous les objets et meubles de valeur qu'on a retrouvés chez elle. Les lampes galées, les meubles Louis XIV. Et là, un avocat des parties civiles lui fait une bonne blague. Il profite d'un moment d'inattention de sa part. Dans le tas d'objets, il rajoute sa propre montre. Et il lui dit
« Et cette montre, madame ?» Elle est à vous également ? Ben oui, oui, elle est à moi. Tout est à moi.
Et une fois de plus, ça fait marrer la salle. À la fin, fini de rigoler, l'avocat général requiert 20 ans de prison pour les deux empoisonnements. Et les jurés suivent son avis. Rodica Negroyou est condamné à 20 ans. À l'époque, il n'y a pas d'appel. La peine est donc définitive. Ne s'en sort pas mal, entre nous. Mais double peine, au passage, elle est déchue de sa nationalité française, puisqu'elle l'avait obtenue par le mariage avec Gérard et lui, qu'elle a empoisonné. D'après vous, qu'est-ce qu'elle fait à l'annonce du verdict ? Elle gueule ! Elle gueule comme un veau ! Depuis, Rodica Negroyou est sortie, bien sûr. Et elle est là, au téléphone. Bonjour, Madame Negroyou.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes sortie quand, de prison ?
J'ai été en prison depuis 9 juin 92 jusqu'à 24 janvier 2015.
Donc c'est ça fait 13 ans.
13 années.
13 années. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, Madame Negroyou, sur ces 13 années que vous avez passées en prison ?
Que je suis innocente, monsieur, et que la prison, c'était pas ma place, car j'ai rien fait de mal à qui ce soit, qu'il s'agit d'une injustice, et que j'ai clamé mon innocence depuis le début. Personne n'a voulu savoir, et tout, c'était une complicité, c'était un crime à mon égard.
Un crime à votre égard ?
Exactement, et à ma famille humaine, car rester 16 années en prison dans les cages de fer, la plupart je suis restée à mi-temps,
oui,
sans rien faire de spécial, c'est-à-dire j'ai été une personne correcte, disciplinée, et je peux dire que j'ai rendu beaucoup de services à l'administration pénitentiaire et aussi aux prisonniers qui, la plupart, étaient vraiment des personnes découragées.
Vous avez passé beaucoup de temps au mitard parce que, comme d'habitude, vous vous êtes révolté.
Oui, c'est-à-dire ma révolte, c'était par écriture, vous savez. J'ai fait, c'est-à-dire, des lettres à l'administration pénitentiaire, à leur organisme hiérarchique, car je suis victime. Donc, il avait des conduites haineuses envers moi et injustes, ce que je n'ai pas accepté. C'est-à-dire que je n'ai jamais accepté, je n'accepte pas que quelqu'un fait des affirmations sur ma personne qui sont fausses. J'ai été innocente, je suis innocente, je veux démasquer mes souffrances. Je peux dire que, heureusement que psychologiquement je suis forte, mais je suis plus forte physiquement, car ces années en prison, monsieur, c'était une catastrophe.
Je me souviens que quand vous avez été jugé devant la cour d'assises en 1999, vous étiez une très belle femme.
Oui, si vous dites ça, oui, c'est vrai. Mais maintenant, vous savez, après 16 années de souffrances physiques, parce que aussi je travaillais, je ne pas rester comme ça sans rien faire. Et vous savez, les années, ça se voit.
Ça se voit.
Ça se voit. Voilà, je peux dire que j'ai été vieillie par l'injustice qui m'a été accordée.
Alors vous essayez de faire réviser votre condamnation pour ces deux assassinats. À quoi ça sert puisque vous êtes sorti de prison?
Ah, oh, monsieur, bah bien sûr que oui. Il s'agit de ma dignité de femme. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Bien sûr que ça veut dire quoi ça? Je veux que les personnes soient démasquées et punies. Ils sont en liberté, ils sont... monsieur, bien sûr que ça sert. Parce que demain, elle peut faire la même chose à quelqu'un d'autre qui est innocent. Non, bien sûr que je suis en liberté, d'accord. Mais ça veut dire pas que je peux laisser comme ça les personnes qui m'ont fait du mal. Non, monsieur, bien sûr que ça sert. Ça sert, bah oui, justement.
Merci beaucoup, Madame Negroyou. Merci d'avoir accepté cet entretien avec moi. On va parler de vos demandes de révision dans un instant avec votre avocat, Maître Baird. À tout de suite.
Europe 1, Ondelat raconte.
Bonjour, Maître Baird.
Oui, bonjour, Monsieur Ondelat.
Alors, vous êtes lancé à la demande de Madame Negroyou il y a quelques années dans une série de demandes de révision. Quel est votre premier argument? Je crois que c'est un élément que vous n'avez pas découvert vous-même, qu'a découvert le fils de Madame Negroyou. Monsieur Jacquetel prenait un médicament. On n'avait pas du tout vu ça au moment du procès.
Oui, la problématique est la suivante. Madame Negroyou a été, qui a toujours protesté de son innocence, a été condamnée pour empoisonnement. Et les produits qui étaient visés comme étant les produits avec lesquels elle aurait empoisonné les victimes, c'était d'une part de la digoxine et du phénobarbital pour la victime Jacquetel, et d'autre part de la digoxine pour la deuxième victime. Elle a été condamnée parce que les différents experts qui avaient été saisis par le juge d'instruction avaient indiqué, notamment ce qui concerne M. Jacquetel, que celui-ci n'avait pas de phénobarbital dans les médicaments qu'il consommait habituellement, et que par voie de conséquence, s'il y avait du phénobarbital dans le sang, c'est qu'il avait été empoisonné. Mais il se trouve que, à la suite de recherches qui ont été effectuées par la famille, on a découvert que les experts s'étaient trompés. Mais vraiment trompés. C'est-à-dire qu'il y avait un médicament qui était pris par M. Jacquetel, qui s'appelle le Colchimax, qui contenait du phénobarbital. Et c'est sur ce fondement que nous avons introduit la première requête en révision.
Et elle a été rejetée. Jusqu'où irez-vous pour tenter d'obtenir la révision de la condamnation de votre cliente?
Alors, la première requête en révision a été rejetée, c'était en 2007, et nous avons introduit une seconde requête en révision en 2011, en indiquant que les nouvelles découvertes de la recherche scientifique médico-légale permettaient de dire qu'il y avait quelquefois des confusions dans les analyses entre la digoxine et des phénomènes qui s'appellent des DLIS. Pourquoi la digoxine? Parce que le second poison que Rodica a été censé avoir donné aux victimes, c'était de la digoxine. Or, les nouvelles découvertes scientifiques démontrent que les malades atteints de certaines pathologies fabriquent de manière endogène de la digoxine, ce qui fausse les analyses. Or, c'était justement le cas des deux victimes qui présentaient des pathologies susceptibles d'entraîner une fausse analyse de digoxine. Ça a été notre deuxième requête en révision qui a été rejetée récemment. Et pour répondre à votre question, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, pourquoi ?
Jusqu'au bout, c'est quoi ? C'est la Cour européenne des droits de l'homme.
Voilà. Là, on a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi ? Il ne s'agit pas d'un acharnement, d'un acharnement de la part de Madame Legruyou, mais on est en présence de quelqu'un qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle sur la base d'expertises dont on est en mesure d'établir qu'elles sont particulièrement contestables. C'est une femme qui est innocente et rien n'arrêtera les démarches qu'elle entreprendra pour tenter d'être réhabilitée.
Elle ira, mais ça je crois l'avoir compris en lui parlant tout à l'heure, elle ira jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, c'est son caractère.
C'est son caractère parce que c'est une combattante, mais c'est aussi une combattante parce qu'elle a été condamnée injustement.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.